RTL Original Podcast.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bulle Immo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Lang, architecte et partenaire chez Artbuild Architecture, et Céline Zimmer, architecte et fondatrice de l'agence Eisneucht Wohnen. On en parlera plus tard. Bonjour et merci d'avoir pris le temps de venir en studio. Comment allez-vous ?
Super. Très bien. Après les petits problèmes du début, tout va bien.
Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la situation reste très compliquée sur le plan du logement au Luxembourg. On construit très peu alors que la demande, elle, reste forte. Une équation qui ne fait que se compliquer au fur et à mesure que le temps passe. La crise que l'on traverse aujourd'hui dure maintenant depuis près de 4 ans. Si elle a bien été déclenchée par la hausse des taux, la vérité, c'est qu'elle nous pendait un peu au nez depuis un moment. Mais aujourd'hui, on ne va pas refaire l'histoire. Aujourd'hui, j'aimerais parler des alternatives qui se présentent à nous dans la conjoncture actuelle. Alors, j'ai une question pour M. Lang, d'emblée. Aujourd'hui, on parle plus que de la hausse des prix de l'énergie et des carburants. C'est ce que ça implique pour le secteur de la construction. Je me tourne vers vous. Est-ce que construire moins cher, c'est enfin devenu une priorité au Luxembourg et en Europe ?
Ça, c'est deux questions différentes. Parce que, comme je viens de raconter, j'étais en Allemagne maintenant pendant une semaine pour voir la construction bois en Allemagne. Et on voit énormément de projets qui se font en construction bois modulaire, avec des prix que nous, on peut rêver. C'est 2000 euros mètre carré pour des bureaux de 15 000 mètres carrés, tout en préfabriqué. Et au Luxembourg, on tourne autour de 4 000 euros. Mm-hmm. Alors, je crois qu'il y a des tendances européennes qui vont vers de la construction moins chère, plus durable, mais je ne suis pas sûr que Luxembourg, on a déjà entendu le son de cloche. On a des discussions avec des promoteurs qui disent, oui, on sent que le vent a changé parce que les clients ne me demande plus maintenant des extras, des salles de bain spécifiques, mais on est heureux d'avoir de l'argent pour acheter un bien, mais on ne fait plus de choix supplémentaires. Alors, du point de vue client, c'est déjà le cas, mais le promoteur lui-même, lui, est encore obligé de proposer un standard qui est, je crois, très très luxueux encore sur le marché.
Alors, Madame Zimmer, vous faites partie des architectes qui s'engagent ouvertement pour le logement abordable. Vous avez récemment fondé l'agence Eisneucht Wohnen, cette fois-ci c'est passé. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cette initiative et du modèle que vous défendez ? Et partons simplement du principe que je n'y connais rien et que expliquez-moi un petit peu ce que c'est une coopérative de logement.
Ça marche, je vais essayer. Donc je m'excuse en avance pour si jamais j'ai un mot qui me manque en français.
On va vous aider.
Voilà. oui, donc en fait, Eisneucht Wohnen, agence, c'est ça. Enfin, il y avait une. Moi, j'ai écrit ma thèse en doctorat sur la crise du logement au Luxembourg. Et quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu qu'il y avait un modèle de logement qui existe à l'étranger, donc notamment en Suisse, en Allemagne, en Belgique aussi historiquement, et qu'au Luxembourg, on n'a vraiment pas du tout exploré en fait. Et c'est le modèle de la coopérative d'habitation.
Et comment ça marche ?
Ça marche, en fait, une coopérative, c'est une forme juridique, donc comme une SARL, c'est une SCOP, S-C-O-P au Luxembourg. Et dans les coopératives d'habitation, tous les résidents sont associés de cette société. Et ce qui est très important, il y a en fait trois grands principes. Le premier, c'est le principe du not-for-profit, donc sans but lucratif au moins qui est versé aux associés de la société. Le deuxième, c'est celui de l'utilité publique. Donc, les coopératives d'habitation ne veulent pas seulement bâtir du logement abordable qui reste abordable au fil des années, mais qui, aussi exténuer leur parc immobilier. Mmh. Et le troisième, et je pense que celui-là, il est le plus important peut-être pour aujourd'hui aussi, c'est le principe de la prise de décision démocratique. Donc, en fait, dans une coopérative, comme tous les résidents sont associés, tous les résidents ont une voix, enfin un vote, un droit de vote dans toutes les décisions que la coopérative en tant que société, elle prend. Et puis après, la SCOP, la coopérative, elle est promoteur, elle construit et elle reste propriétaire des logements, mais les résidents versent un loyer à la société pour pouvoir y habiter. Mmh. Et comme tout le monde peut en fait décider sur comment est-ce qu'on veut habiter, qu'est-ce qu'on a besoin, c'est un peu ce que vous venez de dire. Là, c'est vraiment les résidents sont les promoteurs et ça, c'est une dynamique super intéressante.
Sujet, comme on parle de l'Allemagne, et j'ai visité un logement étudiant, c'était très grand, c'était 140 appartements plus ou moins, et un investissement de 35 millions d'euros qui était entièrement financé, coordonné et organisé par les étudiants. C'est-à-dire les étudiants, ils ont lancé des microcrédits, c'est-à-dire que tout le monde pouvait donner son 1000 euros avec un taux fixe pour avoir un certain montant pour recevoir de l'argent de la banque. Pour maintenant financer le projet, alors, ils ont acheté le terrain, ils ont construit la résidence étudiant. Et c'est en autogestion, comme vous dites. C'est démocratique. C'est uniquement les étudiants qui s'organisent, qui font tout ce qu'il y a à faire dans la résidence. Et ils ont un comité qui change tous les deux ans. Et puis, quand les étudiants quittent, il y a des nouveaux qui viennent, des nouveaux qui organisent tout ça. Et comme ça, ils ont leur propre immeuble. Je ne sais pas sous quelle forme juridique ça fonctionne, mais c'est hyper intéressant.
Donc, c'est là où la question se pose pour le marché luxembourgeois, où j'ai envie de dire quasiment la plus grande priorité, c'est de faire baisser le prix au mètre carré. J'imagine qu'une dans une coopérative de logement, ce n'est pas du tout les prix qu'on connaît ici.
Enfin, c'est comme Monsieur Yang l'a dit avant, on ne peut pas comparer les prix construction en Allemagne à ceux au Luxembourg. Mais les prix de construction sont en hausse, c'est normal. Il y a les chocs économiques externes, maintenant une guerre en plus, en fait, c'est inévitable que les prix augmentent. Mais ce qu'on peut faire, c'est par exemple les coopératives d'habitation, normalement, ils ont une consommation de surface habitable par personne qui habite qui est très bas, en fait. Et c'est clair que si on habite sur moins de mètres carrés, on doit verser moins d'argent pour pouvoir se loger. Et en plus, par exemple, si on parle des thématiques de durabilité, et je ne parle pas seulement de la durabilité écologique, mais aussi économique, en fait, une coopérative, comme elle sait si elle va construire un bâtiment qui doit être rénové dans 10-15 ans, c'est elle-même qui doit payer cette rénovation, normalement, les coopératives prennent des décisions très, très durables. Il veut donc dire que c'est pas seulement adapté à leurs biens, mais c'est aussi... Parce que si on parle de baisser les prix, est-ce qu'on parle de baisser les prix aujourd'hui pour pouvoir vendre moins cher? Ou est-ce qu'on parle vraiment de pouvoir baisser les prix pour toute la durée de vie d'un bâtiment, en fait? Ça, c'est aussi une question super importante où les coopératives, comme ce sont les futurs résidents qui prennent les décisions en démocratie, bien sûr, qu'ils prennent des décisions qui sont...
Oui, dans la question, je vous la pose d'un point de vue luxembourgeois, parce qu'effectivement, aujourd'hui, le problème, c'est l'accès, plus qu'autre chose. Alors, bien évidemment, des initiatives ou des alternatives, c'est pour ça qu'on a cette émission aujourd'hui, c'est de ça dont on veut parler.
Je crois où on a des problèmes au Luxembourg, c'est souvent les promoteurs qui font fonctionner le marché et qui n'ont pas cette réflexion durabilité à long terme. C'est-à-dire, le promoteur, lui, son but, c'est de vendre l'appartement et c'est au propriétaire, après, de gérer les rénovations, l'entretien. Mais il faut avoir une vision un peu plus globale sur le life cycle cost. Et c'est là où, je crois, c'est un peu... short term, quand on prend des décisions, on essaye de baisser le prix à tout prix, si on veut, mais avec des effets qui sont plus graves à la fin. Et je crois également, nous, comme architectes, il faut réfléchir à mieux organiser les vues en plan. On a eu un luxe que dans les années, presque tous vendaient. Maintenant, il faut construire mieux, il faut construire plus intelligent, avoir des aménagements plus intelligents, pouvoir utiliser également, qu'il y a pas, quand j'ai venu au Luxembourg, il y avait des halls d'entrée de 25 mètres carrés que personne n'utilise. Maintenant, on ne fait plus ça. Il faut réfléchir à donner des utilités à tout et également réfléchir à la vie de l'habitation. C'est-à-dire, on commence à y habiter quand on est jeune, on va avoir des enfants, on reste dans le même appartement, les enfants y quittent, mais qu'est-ce qu'on fait avec les trois chambres? Et c'est là où on a fait un concours, où on est en train de faire un concours, on réfléchit également à des vues en plan qui sont multifonctionnelles. C'est-à-dire, un appartement trois chambres, je peux couper une chambre et avoir un appartement lui-même. C'est-à-dire, je peux louer à la fin, je peux sous-louer soit à un étudiant, soit à mon propre enfant, une chambre avec cuisine, avec salle de bain. Et comme ça, c'est plus durable que tout. Parce que je ne suis pas obligé de changer d'appartement, je peux rester où je suis. Il ne faut pas faire des constructions, mais avec des cloisons intelligentes, on peut gérer l'aménagement de l'appartement pour être plus durable dans le futur.
Et cette flexibilité, elle est très, on peut très très bien l'intégrer dans une coopérative. Comme la coopérative, elle reste les propriétaires, on peut même dire, OK, on va changer la taille des logements si on a besoin. Et on ne doit pas aller chez le notaire, enfin, pas faire tout ça, on ne doit pas sous-louer, on peut juste réaménager le plan de.
C'est exactement le discours entre une personne qui garde le bien, oui, ou une personne qui vend le bien. Absolument. Ce sont deux choses différentes, parce que cette personne qui garde le bien, elle ne va pas focaliser maintenant sur le prix de construction, elle va réfléchir. Qu'est-ce que je vais en faire dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Et je crois qu'il faut que tout le monde aura cette réflexion, parce que c'est trop court.
Ouais. On avait ces discussions il y a 4 ans aux Assises du Logement, justement. C'est un petit peu la manière de vivre qui est en train d'être remise en question, parce que pendant longtemps, Luxembourg, c'était la maison individuelle, libre des quatre côtés. Avec le prix du foncier et les prix du mètre carré, c'est plus possible. Ça endort des gens qui ont vraiment des gros gros moyens. Donc effectivement, il faut trouver des alternatives. Et donc, dans ce contexte-là, Monsieur Lang, on a eu donc des discussions, on s'est rencontrés au MIPIM il y a quelques mois. Nous y avions parlé des méthodes de construction moins coûteuses que celles que l'on emploie traditionnellement au Luxembourg. Alors, vous avez déjà évoqué une partie dans l'introduction. Mais comment est-ce qu'on construit au Luxembourg? C'est quoi la manière de construire traditionnelle? Et les alternatives que vous connaissez et que vous avez vues par exemple en Allemagne, si je ne me trompe pas, ça passe beaucoup par la construction en bois et éventuellement par le hors-site.
C'est le mode actuel de construire, ça reste classique. Il y a peu de projets qui se font en bois, parce qu'on est maintenant également avec la nouvelle réglementation ITM, on est soumis à des contraintes qu'on n'avait pas il y a quelques années, c'est-à-dire il faut tout emballer maintenant en JPROC ou en plaque de plâtre, ce qui est un peu contradictoire parce que le bois en soi est déjà assez stable au feu. Alors, la construction reste classique. Comme dit, quand j'ai commencé au Luxembourg, même une cloison JPROC dans une maison d'habitation était interdite parce qu'il faut pouvoir toquer contre du béton. Et ça reste encore dans les têtes des gens. Alors, le marché veut encore du classique. C'est en train de changer. Nous, on essaie de faire la promotion pour le bois, mais on a quand même des soucis point de vue prix. Que c'est pas toujours le moins cher. Si je me prends maintenant une construction classique en bois, on était avec la plus grande hausse des prix de béton qu'on avait, on était presque équilibré. Maintenant, le béton a pris un peu de était un peu baissé. Alors le bois est devenu un peu plus cher que habituellement. Et pour contrer ça, il faut travailler d'une autre manière, il faut réfléchir d'une manière industrielle, c'est-à-dire il faut pas venir avec 5 menuisiers qui viennent sur chantier et qui montent des cloisons, non, il faut travailler dans une usine, dans un environnement contrôlé, dans les meilleures conditions, pour préfabriquer et venir sur chantier.
Donc ça c'est le fameux hors-site.
Ça c'est du hors-site, c'est un sujet qui est très très large. Il y a beaucoup d'hors-site, beaucoup de monde fait du 2D, c'est-à-dire c'est une cloison par exemple préfabriquée en usine avec le vitrage, avec la façade extérieure. Comme ça, on a un bâtiment hors eau, hors air, très rapidement. Alors on peut travailler à l'intérieur dans des conditions contrôlées. Ça c'est le premier pas, le deuxième pas, mais là on est un peu restreint avec le trafic. Ça c'est le 3D, c'est-à-dire je viens avec des modules préfabriqués et je viens sur site et juste assembler les modules, qui est très, très rapide. Alors on a des chantiers de 2 mois et on peut habiter dedans. C'est pas fait pour tous les types de construction, pour tous les deux mondes. Ce qu'on peut imaginer, ce qu'on a également vu en Allemagne, c'est pour des cloisons qui sont uniformisées, des habitations uniformisées, c'est-à-dire pour des hôpitaux, des résidences étudiantes, où j'ai un module qui se répète plusieurs fois. La grande discussion, c'était également lors de ce voyage qui était très intéressant, c'est à partir de quel moment ça devient intéressant point de vue prix. Et là, ça différait entre 30 et 40 modules identiques qu'il faut produire. Mais ça va plus loin. On peut également actuellement, bah, dans le temps, on avait toujours les salles de bain, c'était le dada du maître d'ouvrage, qui était son... où vous pouvez introduire sa créativité. Mais les salles de bain, à la limite, l'idéal, c'est que tous les salles de bain sont stockés un sur l'autre. Tu as une gaine technique qui descend. Et ça, c'est quelque chose... Il y a beaucoup de corps de métier qui viennent ensemble. Idéal pour préfabriquer. Mm-hmm. Si on regarde maintenant les bateaux de croisière, comment ça s'appelle encore ?
Les bateaux de croisière,
Les paquebots, bah, tout est préfabriqué. Mm-hmm. Un paquebot se construit en moins que 12 mois ou moins que 15 mois et avec des 10 000 personnes qui vivent dedans. Parce que tout est préfabriqué. Une cabine vient s'installer dans le bateau. Et ça, on pourrait également réfléchir pour des salles de bain. Ça, c'est un gain de temps énorme. Mm-hmm.
Et c'est peut-être important à ce moment-là de souligner, on en avait discuté justement à Cannes, du fait que ben, si un chantier dure moins longtemps, logiquement, il y a quand même toute une question de coût qui baisse aussi.
Ça c'est primordial, mais c'est très difficile maintenant en phase conception de prédire ce gain de temps. Mm-hmm. De dire, ok, on a 5 mois de moins, ça va nous faire, je sais pas, 5 mois de moins d'installation de chantier, ça fait 200 000 euros de moins. On a encore du mal, ou pas encore assez d'expérience, pour faire rentrer ça dans le coût de la construction. Mais c'est clair, c'est un gain de temps, et chaque temps que tu gagnes, c'est de l'argent que tu gagnes.
Mm-hmm. Alors, Madame Timmer, au téléphone, vous m'avez parlé d'un projet pilote pour une coopérative de logement au Luxembourg. Malheureusement, le représentant d'Agora, qui devait se joindre à nous, a eu un empêchement. Je me tourne donc vers vous pour en parler, vu que vous collaborez sur ce projet. Où est-ce que ça se passe et à quoi est-ce qu'on peut s'attendre ?
Alors, en fait, vous le saviez peut-être, il y a tout ce développement de Belleval-Sud, qui va être un quartier presque monofonctionnellement sur l'habitat, en fait. Et là, ça fait une année environ, le 15 mai, Agora a publié un appel à projet, enfin un appel à candidature plutôt, mais pour des groupes qui voulaient se constituer en tant que coopérative. Et puis Agora a décidé de leur donner un terrain à Belleval-Sud. Enfin, donner, hein, c'est pas...
L'euro symbolique, c'est ça?
On en a parlé de beaucoup de différents modèles, soit les bailleurs phéotiques, qui est un peu compliqué, comme Agora est une société à durée limitée. Mais ils se sont dit, OK, on va se lancer, nous, on va faire ce premier projet pilote. Il y avait déjà un projet pilote ici au Kirchberg.
Qui avait été avorté.
Voilà. Là, ils avaient des grands, grands problèmes avec le terrain, parce que, bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est pour ça qu'Agora a dit, OK, on va relancer, on va refaire ce processus, en fait. Et ils m'ont donc demandé de faciliter tout cet accompagnement avec ce groupe. Et c'est de cet accompagnement que j'ai fondé Eisnerfull, une agence, parce que je me suis dit, OK, c'est quand même super important d'avoir une agence qui va voir toutes les communes, tous les acteurs, et puis après, qui fait tout cet accompagnement. Parce que si on parle de temps, une coopérative, ça prend quand même du temps. Même pas pour la construction. Une coopérative peut aussi avoir des préfabrications, c'est pas un problème. Mais pour constituer, il faut s'imaginer, c'était des gens qui se connaissaient pas avant. Il y a une plateforme au Luxembourg qui s'appelle For Future Members Only, où des personnes peuvent s'inscrire s'ils sont intéressés à rejoindre une coopérative. Et puis ils se sont trouvés un peu comme ça. Ils ont formé un groupe. Ils se connaissaient pas avant. Et depuis octobre, on les a accompagnés jusqu'à la création de leur société. On a dû parler sur tellement de choses. Comment est-ce qu'on prend des décisions? C'est démocratique, OK, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est des simples majorités, c'est des consensus. Enfin, qu'est-ce qu'on va utiliser? Oui, c'était quand même assez intéressant et très dur aussi, je pense aussi pour les membres. Et là maintenant, ils vont créer leurs entreprises. Dans peut-être un ou deux mois, on va voir. Et ils sont déjà en train de faire l'architecture un peu, de discuter sur l'architecture. C'est ça va être environ 15 à 18 unités d'habitation. Mm-hmm. Et pour vous dire, quand on fait l'architecture, par exemple, on a discuté avec eux si on ne pourrait pas consacrer le sous-sol. Parce que c'est clair que le sous-sol, ça coûte énormément d'argent. Et c'est aussi clair que, normalement, dans beaucoup de bâtiments nouveaux, il y a beaucoup de problèmes dans le sous-sol. Donc, en fait, de leur parler et de leur dire, écoutez, est-ce que ça ne serait pas une option d'intégrer toutes les fonctions qui sont normalement dans le sous-sol, technique, cave, tout ça, au rez-de-chaussée, et puis après ne pas avoir un sous-sol. Et ça, je pense que c'est un move qu'un promoteur conventionnel ne ferait jamais, parce que ça consacre des mètres carrés habitables qu'on peut économiser après. Donc ça, c'est des choses où là, on est en ce moment-là. Est-ce que j'ai répondu à la question ?
Oui, vous avez répondu à la question.
Je crois que ça, c'est intéressant. Et c'est également la réglementation qui doit changer. Parce qu'actuellement, on a tout le monde, dans chaque commune, il faut prévoir des places de parking. On est limité en mètres carrés qu'on peut construire. On est limité en hauteur que ce qu'on peut construire. Et des fois, il faut même compter les techniques en SCB, alors en surface construite brute. Et alors chaque mètre carré que je ne paie pas dans le sous-sol, je vais perdre en vente.
Absolument.
Et c'est là où, je crois, également, d'un point de vue réglementation, on peut réfléchir à comment on peut faciliter ces bonnes idées qu'on peut avoir. Hein.
Pour le parking, on a eu de la chance parce que Bellevalle Sud, je vais faire un peu de la pub. Ils ont deux. Des mobiles étirables. Donc, le parking n'est pas. Ouais. Parce que sinon, ça aurait été infaisable. On ne va pas mettre les voitures au rez-de-chaussée. Ça, on ne va pas le faire. Mais voilà.
Oui, M. Texas m'avait fait la présentation du projet à Cannes, justement. Ouais. Mais montré, il y a donc, je crois, deux. Cette espèce de park house, si je peux appeler ça comme ça, qui vont s'ajouter. Vous avez mentionné alors deux choses. Déjà, les communes, c'est quand même une question importante au Luxembourg, parce qu'effectivement, il y a des communes qui jouent le jeu et des communes qui jouent moins le jeu. Et on sait qu'au Luxembourg, généralement, c'est elles qui ont le dernier mot, qui ont le dernier mot sur une construction. Je sais que, par exemple, pour du logement abordable ou du logement social, on n'aime pas cette étiquette au Luxembourg. Il y a certaines communes qui freinent des quatre sabots, comme on dirait. Est-ce que vous avez déjà parlé avec certaines communes, en dehors de Bellevalle, bien évidemment, de ce genre d'initiative, et comment est-ce que c'est reçu, cette idée ?
J'en ai parlé à beaucoup de communes, et il y a même deux projets plus concrets. Je peux en parler d'un, parce qu'ils l'ont annoncé dans leur budget, et c'est la commune d'Ache-sur-Alzette, qui veulent peut-être, c'est pas encore signé, mais qui veulent peut-être donner un bail emphytéotique sur deux maisons existantes pour une coopérative. Donc ça aussi, c'est faisable, ça doit pas être une nouvelle construction. Et à mon avis, moi, j'étais vraiment très, très impressionnée que les communes et la politique au niveau national, notamment M. Maesch lui-même, étaient très positif, en fait. Il y avait une motion qui a été déposée par Mme Paulette Lénat, début mars, je pense.
Qui était dans l'émission le mois dernier et qui était assez critique par rapport au gouvernement,
c'est
justement.
Mais elle a déposé une motion pour plus de support national pour les coopératives d'habitation et une stratégie nationale pour pouvoir les implémenter au Luxembourg. Et elle a été adoptée avec 60 voix de oui. Donc ça, déjà, c'était un signal très fort, je trouve. Le ministre lui-même, il est très positif. Les communes, honnêtement. Mais je pense aussi, parce qu'il n'y a rien à perdre. Vous voyez, on peut juste dire, OK, on a un terrain ou on a des bâtiments existants. Nous, on ne sait pas vraiment quoi faire avec. Donc, on peut les donner à une coopérative. On serait un peu dehors. On aurait fait une bonne chose. Les coopératives, c'est peut-être important à dire, peuvent devenir des promoteurs sociaux. Donc, en fait, ils peuvent aussi avoir cette aide à la pierre, construire du logement abordable d'après la loi et tout. Donc, il y a personne qui gagne pas, en fait. Donc, c'est vraiment un modèle pour les résidents de s'émanciper eux-mêmes sur ce marché. C'est une possibilité de créer des communautés qui vont avoir des effets sur tout le neighborhood, en fait. Donc, il n'y a pas vraiment un argument contre.
Ouais. Faut être un peu entrepreneur quand même.
Pardon ?
Faut être un peu entrepreneur. Vous avez expliqué que ça peut prendre du temps, il y a beaucoup de discussions, etc.
Il faut être un peu entrepreneur, mais c'est pour ça que j'ai créé Last Night Wooden Agence. Mm-hmm. Et ce qui est aussi super intéressant à voir, c'est que dans ce groupe à Belleval-Sud, par exemple, c'est la mixité des gens. Moi, j'ai toujours pensé, quand j'ai fait mes petites recherches, « Oh, la mixité sociale, c'est tellement joli, on dit ça un peu théoriquement. » Mais c'est très, très réel. Parce que la mixité sociale, au sein d'une coopérative, elle amène vraiment beaucoup, beaucoup d'expertises différentes qui sont énormément importantes. Et aussi, différentes personnes ont différentes... Enfin, capital en temps de temps. Je ne parle pas en temps d'argent, mais ouais. En temps de temps, des personnes qui sont peut-être plus âgées, qui sont peut-être déjà retraitées, ils ont plus de temps qu'une personne qui a juste...
un travail full-time.
Voilà. Ouais. Et tout ça, c'est super important et ça marche très, très bien.
Et comment ça se finance ? Est-ce qu'il y a encore un financement bancaire derrière ou c'est autofinancé ?
Donc en fait, au Luxembourg, il y a deux différents moyens de le financer. Il y a ce qu'on a toujours appelé le financement privé. C'est pour des logements qui ne sont pas des logements abordables. Donc c'est pour des logements pour des résidents qui ne sont pas éligibles aux critères de la location abordable au Luxembourg. Et là, c'est très classique. Enfin, ça aide un peu, comme c'est une coopérative, donc l'économie of scale aide un peu auprès des banques. Ça aide aussi qu'une partie des logements sont des logements abordables, donc c'est moins de risque pour la banque, et voilà. Mais les résidents font des apports propres, qui sont donc des parts de la société. Ouais. Et puis après, le reste, il est un peu, comme vous l'avez dit, avec ce projet en Allemagne, il est réfinancé par un loyer qui est quand même, comme on dit en allemand, une Kostenmiete, donc un loyer qui se passe vraiment seulement sur les coûts, comme il n'y a pas de marge de profit dedans. Et l'autre modèle, c'est la location abordable. Donc c'est le financement que font aussi Fonds du logement, etc., avec les 75% d'aide à la pierre. Voilà.
Et je reviens très vite aussi sur ce que vous disiez en termes de, monsieur Lang, de densité et de hauteur, c'est une problématique au Luxembourg. On a l'impression que ça fait peur, en fait, à certaines communes. Il y a des communes qui n'ont pas les infrastructures, c'est une chose. Il y a d'autres communes qui le refusent par principe. Sortons un petit peu des communes, mais quel est le problème à vos yeux avec cette densité, les tours au Luxembourg, pourquoi est-ce qu'on n'en construit pas ?
Ça c'est une question pour un champion. Je ne sais pas, mais comme vous dites, il y a des communes qui sont assez ouvertes. Je pense plutôt au sud, où on voit quand même des bâtiments qui sont un peu hors du commun, avec 19 étages, avec 18 étages. Au Luxembourg, Kirchberg, il y a également la tour juste pas loin d'ici. Je crois qu'il y a une crainte urbanistique sur l'aspect de la ville, la ville propre, si c'est ville de Luxembourg, si c'est autre commune. Et ce qui se comprend, parce qu'on a un joli centre-ville, un ancien centre-ville, mais on voit d'autres pays, d'autres villes comme Vienne, où on maintient les bâtiments et on fait une rehausse en bois ou avec quelque chose de moderne, et ça fonctionne assez bien. Mais pourquoi on s'abstient ? Je suis la mauvaise personne à vous répondre. Moi, je pense que c'est pas seulement la hauteur, mais c'est également, traditionnellement, on veut habiter dans ces quatre murs face libre, avec son terrain de 10 arts, vu sur le bush, sur le forêt. Et c'est juste plus payable parce que le terrain est trop cher, alors il faut densifier. Mais ce n'est pas seulement en hauteur, c'est également l'appartement doit être densifié, les écarts entre les bâtiments doivent être densifiés. Et dans le temps, il y avait un concours Baulücken au Luxembourg qui était très, très bien. Et je pense qu'il y en a encore plein.
Oui.
Pourquoi pas relancer un Baulücken wettbewerb ? C'est d'ailleurs trouver les terrains entre deux bâtiments et faire quelque chose de chouette dedans, souvent en ville de Luxembourg propriétaire ou également des privés qui peuvent se rejoindre à ces concours. Et c'est là où on densifie la ville.
Et c'est en fait, au Luxembourg, j'ai toujours l'impression qu'il y a toujours ce phénomène de « not in my backyard ». Donc, tout le monde dit oui, densité oui, mais...
Mais chez vous.
Pas, voilà. Et puis après, il y a cette mentalité qui se base peut-être sur une culture très ancrée dans l'ADN du pays, sur cet individualisme. Donc tout ce qu'on vient de dire avec les maisons individuelles, tout ça, ça vient du temps pré-industrialisation où Luxembourg, c'était un pays des farmers, où tout le monde avait sa propre maison et c'était normal. Et je pense que ce qui est aussi un peu compliqué au Luxembourg, c'est que tout se change tellement vite. Donc en fait, quand moi j'étais petite, Luxembourgville, c'était tout à fait autre chose qu'aujourd'hui.
Le Kirchberg.
Voilà.
Le Kirchberg. Enfin, moi, j'ai fait l'école européenne, donc je l'ai vu évoluer, le Kirchberg. Hein. C'est,
oui,
c'est une folie.
Et c'est incroyable. Et je pense que pour beaucoup de personnes, c'est toujours... c'est juste une tension entre... On sait qu'on doit avoir plus de population pour maintenir le système économique et blabla. Et de l'autre côté, on ne veut pas que les choses se changent. Et ça vient... bien au-delà du logement, mais le logement, la densité, c'est un peu dans cette mentalité.
Mmh. Et je crois que également c'est un énorme facteur économique pour Luxembourg, parce qu'on entend de plus en plus que les gens ils quittent le pays à nouveau, les gens ils viennent, restent 2 ans. Ils
quittent. Les statistiques sont formelles, oui. Il y a de plus en plus de Luxembourgeois qui partent.
C'est en perte d'attractivité, parce qu'on n'arrive pas à gérer notre trafic, c'est impossible de gérer le trafic, et on n'arrive pas à proposer du logement abordable pour les... On ne parle pas d'abordable pour des cas sociaux, mais on parle abordable pour des gens.
Pour la classe moyenne.
Qui peuvent se payer un logement. Et ça, je crois, ça a fondamentalement changé. Parce que dans le temps, presque tout le monde a eu accès à un crédit.
Oui,
maintenant, c'est vraiment dramatique. Il n'y a personne qui reçoit de l'argent. Et c'est là où il faut réfléchir, parce que c'est là où l'attractivité de Luxembourg vient. Il faut être un employeur attractif. Sinon, les gens restent où ils sont. Ils ne viennent plus.
Et ce qui est super intéressant, c'est que la Commission européenne a déjà dit au Luxembourg en 2016 qu'il faudrait faire attention pour ne pas perdre cette attractivité à cause des prix de logement augmentés. Ça fait 10 ans alors, et c'était bien avant tous les chocs Covid, guerre ukrainienne.
C'est juste avant l'explosion des prix.
Ouais, voilà.
Juste avant, parce que 2017, ça s'est accéléré d'un coup.
Mais attention, il y a également des acteurs publics, je ne veux pas les citer, qui cherchent maintenant de construire des logements pour eux-mêmes, loués à leurs employés.
Ils disent
on n'a plus accès sur le marché de loyer, le loyer est trop cher. Alors nous, on aimerait bien investir dans du logement qui est unique pour nos employés. Je connais des projets également des privés qui construisent un peu à l'extérieur du Luxembourg des résidences uniquement pour leurs employés. Pour gagner en attractivité. Parce que si on gagne bien sa vie, c'est clair, mais si on ne sait pas se loger... C'est quand même délicat.
Alors, nombreux sont ceux qui s'accordent à dire que le problème du marché immobilier luxembourgeois, c'est la faible part de logements en main publique. Donc, on est à 2% aux dernières nouvelles, mais bon, les statistiques datent un petit peu, mais je pense qu'elles n'ont pas bougé des masses. Et est-ce que c'est un avis que vous partagez? Et si oui, comment est-ce qu'on y remédie?
J'ai une réponse courte. Je ne suis pas sûr si le public doit être l'acteur principal.
Parce que... il ne l'est pas de toute façon pour l'instant.
Non, mais je crois que c'est le privé, avec les promoteurs, avec les investisseurs, qui doivent avoir un marché qui est intéressant pour revenir. Et je trouve les initiatives que vous faites, ça c'est un mix entre les deux. Ça, c'est hyper intéressant. Mais c'est pas... je crois que Luxembourg, il a fait un grand effort à soutenir le marché en achetant les VFA, les projets qui se font des pas. Mais ça reste notre argent, c'est nos emplois qui soutiennent le marché. C'est très bien. Mais je crois que c'est pas la solution. C'est une solution court durée. Mais il faut travailler pour qu'on puisse être attractif avec les prix de construction, avec les prix de terrain, avec le marché... pour également les investisseurs. C'est peut-être tout à fait de l'inverse que vous
peut-être.
Mais c'est très bien, tant mieux.
Non, alors, ce que vous avez dit, que les coopératives se situent un peu au milieu, c'est absolument correct. Je ne vais toujours pas le dire, mais c'est le nom de ma thèse en doctorat. Elle n'a rien à voir avec les coopératives. Elle parle d'un third housing sector, donc un tiers secteur logement qui se situe évidemment entre le privé et le public et qui a des critères, des mécanismes des deux qui sont combinés dans un nouveau secteur, en fait. Mais ça, c'est très théorique, mais vous avez complètement raison, ça se situe un peu en dehors du marché et en dehors du public. Moi, personnellement, je suis un peu peut-être plus... mais pour moi, le logement public doit absolument augmenter, et s'il ne fait pas, il faut au moins vraiment réguler le marché. Parce que ce qu'on voit depuis des années, c'est que le marché n'arrive pas à se réguler lui-même. Et si on continue à vraiment...
Vous anticipez ma prochaine question. Mais allez-y, allez-y.
Bon, bah, si on n'arrive pas à... Enfin, ce qu'on fait, là, si on voit un peu aussi des choses que le gouvernement est en train de faire, c'est toujours, enfin pas seulement, mais de donner du support aux investisseurs, aux promoteurs, aux ceux qui construisent. Je ne vais pas dire que c'est pas bien, mais pour moi, c'est très important de distinguer entre trois différentes crises. Il y a la crise du logement, il y a la pénurie du logement, et il y a la crise immobilière, enfin, secteur immobilier. Et si on, maintenant, comme notre Premier ministre dit toujours, le mantra, c'est « May amazer about » construire plus et plus vite.
Des paroles en l'air, d'après Madame Lénard.
Alors là, on est vraiment dans une idéologie où on dit « Ok, donc les coûts du marché se sont faits par offre et demande. Et si on n'a pas assez d'offres, ben, enfin, c'est clair que les coûts sont très hauts. Mais si on regarde les chiffres, c'est juste impossible que ce marché peut être saturé sur... À un point où on pourrait dire « Ok, là, ça fait tomber les prix ». Donc pour moi, si le marché n'arrive pas à donner des solutions propres, il faut le réguler. Ça, c'est mon opinion.
Et donc, c'est à ça que je voulais en venir. Donc, j'avais donc Mme Lénard, Mme Tanson et M. Wagner dans l'émission il y a un mois, qui me disaient, qui me confirmaient depuis la Chambre des députés que toutes ces initiatives qu'on a vues se former sous l'ancien gouvernement, c'est-à-dire impôt à la mobilisation de terrains constructibles, taxes sur les logements vides, bon, impôt foncier qui a été revu, registre national, tout ce qui pourrait faire bouger et réguler donc ce marché et forcer certaines personnes à construire ou à vendre pour qu'on puisse construire plus de logement, c'est au point mort. Donc à partir de là, j'ai envie de vous dire comment est-ce qu'on sort de ce pétrin.
Est-ce que vous voulez aller celui-là?
Non, pas encore.
Ok. Bon, ok, mais là on est très politique.
Oui,
le
oui.
problème, enfin, au Luxembourg, si on est très très honnête, la majorité des personnes qui votent sont des propriétaires. Mmh. Donc déjà, tout le monde est un peu effrayé de dire « Ok, on va réguler, par exemple, la location. » On a une régulation, il y a 5% capital investi. Il y a cette réglementation sur les 5% capital investi que personne n'adapte vraiment et puis c'est ok, quoi, c'est bon. Mais le moment où il y a des politiciens qui disent « Nous, on veut réguler, par exemple, la location », beaucoup de gens sont genre « Oh non, on va me prendre de la liberté », qui n'est pas du tout le cas. Hein. Si on dit « Ok, on pourrait s'imaginer de réguler le marché seulement pour des personnes qui ont 100 logements à mettre en location », c'est déjà quelque chose d'autre. Je pense que ça, c'est le premier problème. Le deuxième, c'est que c'est clair que la politique, c'est toujours une balance. Hein. Il ne faut pas non plus complètement oublier les investisseurs, les immobiliers et tout ça. Donc, il faut toujours balancer les intérêts un peu. De mon point de vue, la balance, elle est un peu trop vers l'offre en ce moment-là. Mais je pense que ça devrait être plutôt un changement que la population, que nous, on demande. Que ça ne soit pas seulement « Oh, oui, on a une crise du jugement, il faut plus... » Parce que c'est le « Tush numa int », hein, c'est
oui.
dans tout le monde dit... C'est ça le plus grand problème au Luxembourg.
Et c'est là où Mme Tanson disait justement, je pense très justement, qu'il y a un shift qui est en train de s'opérer au Luxembourg, c'est-à-dire qu'il y a encore 10 ans, il y a tout un pan de la société luxembourgeoise qui ne s'inquiétait pas des prix parce qu'ils pouvaient encore acheter un terrain pour leur enfant, ils pouvaient encore voir leur enfant travailler à l'État et s'acheter un bien. Effectivement, aujourd'hui, si on n'achète pas à deux, c'est très très compliqué. Et du coup, il y a tout ce pan de la société qui commence à se poser la question qu'est-ce qui va se passer. Et puis de l'autre côté, je pense que, et c'est peut-être ça qui va faire pencher la balance, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont du mal à recruter à cause des prix du logement, et donc l'attractivité du pays qui en prend un sérieux coup, et c'est peut-être ça qui va faire pencher la balance, et on va dire ok, il faut intervenir.
Il faudrait peut-être aussi expliquer aux gens qu'il y a ce problème, je dis toujours systémique, qui est donc ce problème d'attractivité, mais il y a aussi un problème, comment dire en allemand, Volkswirtschaftlich, donc, où on dit, ok, si les gens dépensent plus et plus d'argent sur leur logement. Ils n'ont pas beaucoup d'argent pour aller au restaurant, pour aller dans des bars, pour acheter...
faire tourner l'économie.
Voilà. Et ça, je pense...
Faire tourner l'économie. Ouais.
Voilà. Et ça, je pense qu'il faudra peut-être l'expliquer à tout le monde qui fait sa croix en 2028 et aussi dans les élections communales, que la crise du logement, ce n'est pas seulement un problème qui ceux
des autres
qui n'ont pas encore sont pas encore propriétaires. C'est pas seulement ça.
Hein. Je vais quand même me défendre.
Allez-y.
Je suis pas. Je crois qu'on parle plus ou moins de la même chose. Je suis pas contre une régulation du marché ou contre une régulation que les gens sont forcés à utiliser des biens qui sont vides, par exemple. Je trouve que c'est utile et c'est nécessaire parce que sinon on va jamais s'en sortir. Où moi je pense que c'est on n'est pas sur le bon chemin, c'est le financement public permanent d'un promoteur privé, des subsides qui sont payés par des rachats de VFA pour soutenir le marché, ce qui était bien. Parce que je crois que c'est pas au public de prendre des projets qui étaient conçus dans le temps, qui sont trop chers pour le marché, qui se vendent pas, et c'est maintenant le public qui achète. Il y a des projets qui étaient, le terrain était cher, on a construit, on a fait des projets comme toujours, ils se vendent pas, parce que soit l'endroit est pas idéal, soit c'est trop cher, alors c'est le public qui rachète. Et je crois que c'est ça qui est pas bon.
Oh, mais là, je suis tout à fait d'accord.
Oui, dans le sens où on sauve un projet qui n'aurait peut-être pas dû,
dû échouer. Ça a du sens. Maintenant, ça a eu du sens au début de la crise, parce que tout le monde était surpris. On savait pas, on n'a pas vu venir la vague, comme on la sent toujours. Mais c'est pas durable. C'est bien pendant un certain moment, mais c'est pas durable. C'est pas au public de financer le logement. C'est également, il y a une partie logement qui est fait par SNHPN, par fonds de logement, maintenant par fonds de Kirchberg, par Agora, par tout le monde qui s'investissent dans du logement social, dans du logement, disons pas social, mais abordable. Mais c'est également le privé qui a soutenu tout le marché pendant une longue période. Et c'est le marché privé qui est maintenant en charge de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir à nouveau offrir du logement abordable. Et là, souvent, on est contraint à des promoteurs souvent étrangers qui ont racheté des terrains en haut de la vague et qui sont maintenant ils savent même pas plus construire durable à un prix abordable parce que le terrain est trop cher. Et c'est là où je crois on n'est pas encore sorti de l'auberge parce que ça les projets sont là, ils sont toujours trop chers et on va avoir peut-être encore des faillites pour certains promoteurs qui ont acheté trop cher.
À savoir que là, c'est peut-être une fenêtre de tir hein, pour ceux qui cherchent, parce qu'effectivement, pendant 2 ans, les 2 premières années de cette crise, les prix des terrains ont baissé. Certains promoteurs qui ont réussi à acheter ces terrains à des prix plus bas, construire un petit peu avant la guerre en Iran, etc., si c'est possible en termes de timing.
Vous pouvez être sûr, il y a assez de monde qui attend déjà.
Voilà. Oui. Mais c'est ça.
Le problème, c'est aussi que... Enfin, je suis tout à fait d'accord avec vous, alors.
Je pense
que là, il faudrait peut-être distinguer entre est-ce que le public, c'est ce que vous avez dit aussi, hein, mais le public, moi je trouve que c'est bien la part des terrains du logement public au Luxembourg doit augmenter, à mon avis, mais il faudra faire un calcul très précis sur, ok, vous me dites, c'est ça le prix de votre projet, c'était ça le prix du terrain, c'était ça le prix de la construction, voilà. Et de vraiment négocier la marge qui est dessus. Parce que ça, à mon avis, c'est pas au public de payer une marge aux promoteurs.
Là, je peux vous assurer, il n'y a presque plus de marge. Je travaille sur un des projets qui est acheté. Et franchement, on est à l'euro. Hein. Chaque modification, parce que c'est le promoteur qui garde le projet pour le construire. C'est pas le public. Et il a du mal. Il a du mal. Alors, tout le monde autour de la table est perdant. Mais on est heureux qu'on construise ce bâtiment. Ce n'est pas la marge qui est rachetée.
Pré-crise, les estimations qu'on me donnait, c'était une marge de plus ou moins 2 à 3 % pour les constructeurs, mais de 20 % pour les promoteurs, effectivement.
Ou promoteurs ?
pour les constructeurs, 2-3%, pour les promoteurs, 20%. Mais effectivement, c'était pré-crise. Donc aujourd'hui, c'est plus la même balance dépendant de quand on a acheté.
Honnêtement, je ne crois pas aux 20%. Je crois que c'est beaucoup moins.
Hein. Ouais. Non, mais encore une fois, c'est les chiffres qu'on m'a donnés pré-crise.
Hein. Oui, même pré-crise. Okay.
Voilà. Donc je vois que l'horloge est en train de nous rappeler. Donc je vais passer une question. Vous remercier à tous les deux d'être venus en studio. C'était une discussion très intéressante. À nos auditeurs, nous nous retrouvons le mois prochain pour une émission consacrée à l'impact de la crise du logement sur l'attractivité du pays. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Et à bientôt.